Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
C'est vrai que c'est une position particulière parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur. Et donc, dès le début de la négociation avec les startups, je leur explique, je suis entrepreneur. Donc, je te comprends et je suis pas là pour te voler. Et je suis pas là pour passer en force. Je serai toujours du côté de l'entrepreneur. Et s'il a un problème un jour avec des investisseurs dans des tours suivants, je serai de son côté parce que j'ai été trop frustré dans mes propres expériences, dans des boîtes où j'ai investi, de voir à quel point des investisseurs qui ne sont absolument pas dans l'opérationnel veulent venir donner des conseils alors qu'ils ne connaissent pas la verticale et créent des tensions tellement fortes que ça détruit certaines boîtes. Moi, je leur explique que je serai toujours de leur côté. Pour autant, j'ai un rôle auprès de mes membres qui est de trouver les meilleurs deals possibles dans les meilleures conditions. Donc, je serai toujours juste d'un côté comme de l'autre et il faut réussir à être assez équilibré pour que tout le monde soit content. C'est-à-dire que les membres doivent avoir les meilleures conditions du marché, bien mieux que s'ils avaient voulu investir seuls. La plupart du temps, ils auraient même pas pu investir, mais admettons, ils auraient pu. On a, nous, des meilleures conditions parce qu'on a plus de poids. Donc, quand tu arrives et que tu dis « moi, je peux te mettre 5 millions sur la table », tu as plus de poids qu'un BA qui dit « je peux t'en mettre 20 000 », quoi, ce qui est tout à fait logique. Mais il faut aussi être juste avec l'entrepreneur parce que si tu le défonces, déjà, il a plus confiance en toi et il refusera de travailler avec toi. Et si jamais il arrive à signer parce qu'il a pas le choix, il va avoir une rancœur envers toi et il peut se démotiver s'il n'est pas assez incentivé. Donc, nous, on a vraiment des term sheets qui sont assez classiques. On utilise toujours les mêmes. Comme ça, ça nous fait une base de travail sans perdre de temps. On peut adapter au cas par cas, si tu veux, certaines clauses parce qu'il y a une condition particulière. Typiquement, nous, on a une exclusivité. C'est-à-dire qu'un fondateur, on parie sur lui avant toute chose quand on fait du early stage, donc au tout début de l'aventure, il y a très peu de chiffres, on parie sur une énergie, on parie sur une vision, sur une capacité de travail, sur aussi un feeling, parce que je me pose souvent la question, est-ce que je m'entends bien avec cette personne, est-ce que j'ai envie de passer du temps, de prendre des cafés avec elle, parce qu'en réalité on sait qu'il va nous appeler, qu'on va faire des boards, il faut que ce soit fun. Et tu vois, trop souvent les entrepreneurs oublient qu'il faut pas être trop formel avec des BA, il faut aussi donner envie de travailler, parce que c'est une vraie relation d'homme à homme. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut qu'on devienne amis, parce que ce serait exagéré, mais en tout cas il faut qu'on s'entende bien, qu'on se respecte et qu'il y ait un échange qui soit possible avec un entrepreneur qui a une vision, donc tu vois, qui ne change pas d'avis toutes les deux minutes, mais qui est aussi capable de prendre le feedback. Donc tu vois, c'est comme tout, c'est toujours un équilibre. Et l'exclusivité, pour y revenir, normalement, elle est dans tous nos pactes, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il peut pas monter une autre boîte quand nous, on a investi chez lui, ou il peut pas détenir plus de 20% dans une boîte alors qu'il est fondateur de sa start-up. Mais si exceptionnellement, il a déjà lancé un business qui tourne tout seul, ou ça nous est arrivé là il y a pas longtemps, en fait, il a 20% d'un restaurant qu'un pote a lancé, on peut faire une exception et lui dire, voilà, on va faire une liste exhaustive des business où t'es déjà, et on signe. Donc, évidemment, c'est malléable en fonction des circonstances, mais on essaie toujours quand même d'avoir le même pacte actionnaire, la même term sheet, dans l'intérêt de la startup aussi. C'est que nous, on a une promesse qui est de donner l'argent très vite. Donc, tu viens nous voir un mois et demi après, t'as l'argent. Et ça, c'est quelque chose de génial pour l'entrepreneur, mais ça veut dire que ça oblige un process qui est assez automatisé, assez militaire, de manière à pouvoir aller le plus vite possible.
Deux choses. Déjà, pour nos chers auditeurs, si ça vous intéresse de voir une term sheet, allez sur le site de Galion. Vous pouvez télécharger des templates de term sheet et c'est super intéressant, même quand tu bosses pas dans le VC ou quoi, pour voir à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Et t'as beaucoup parlé donc des succès en soi et du fait que x3, x5, x7, c'est un succès. Mais il y a personnellement une clause qui m'a traumatisée parce que j'ai bossé dessus en stage et c'est une clause horrible qui justement s'attaque au cas inverse, au cas où justement tu fais un nouveau round de financement et la valo a baissé. C'est une clause, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle le ratchet et qui est en général la cible de tous les articles écrits sur le VC parce que ça peut être une clause très prédatrice justement parce qu'en fait c'est une clause qui justement accorde la priorité sur la valo soit justement que à l'investisseur, soit qui laisse une partie des profits au fondateur. Et donc, si tu peux nous en parler, ça se passe comment ça chez Blast?
Alors nous, c'est très simple, on n'a pas mis de clause de ratchet et toutes les startups chez qui on a investi pourront le confirmer, parce que effectivement, c'est une clause qui fait trop mal pour l'expliquer, même si tu l'as bien fait en deux mots. C'est-à-dire que si vous avez levé à 10 millions au premier tour et qu'ensuite vous downroundez, donc faites une valo plus basse au tour d'après à 5 millions, les investisseurs qui sont rentrés à 10 vont récupérer des parts pour moyenner leur prix d'entrée et se retrouver au même prix que les nouveaux. Moi, je pars du principe que quand tu investis chez un entrepreneur, tu es dans le même bateau. Et c'est quelque chose que je vends et ça nous permet d'être très alignés. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. C'est-à-dire que l'entrepreneur n'est pas au-dessus de l'investisseur et l'investisseur n'est pas au-dessus de l'entrepreneur. On est tous dans la même direction et on doit serrer les coudes quand ça va mal. Et un bon investisseur, tu le reconnais quand ça va mal. Parce que quand tout va bien, moi ça m'est arrivé chez Feed, on faisait 2 millions, 7 millions, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires les 3 premières années, on va aller plus de 70 millions au bout de 2 ans, on avait levé 40 millions, on était les premiers à faire du D2C, on va dire, et à lever autant en France. Quand ça a été plus compliqué avec le Covid, ça s'est tendu. Et donc les gens, à un moment, je marchais sur l'eau, tu vois, je pouvais arriver n'importe où, les VC applaudissaient. Et après, tu vois, j'étais mal vu parce qu'on avait divisé par deux notre chiffre d'affaires pendant le Covid, puisqu'évidemment, tous les Franprix étaient fermés, les Monoprix, etc. Donc, le bon VC ou le bon investisseur va te soutenir quand c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a enlevé ces clauses, nous, de ratchet, parce que c'est un bordel à gérer, en plus, pas possible. Surtout quand tu as des SPV, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse profiter de la clause. Enfin, c'est un bordel. On a expliqué aux entrepreneurs qu'on leur l'a volontairement pour faire en sorte que ce soit pas agressif pour eux. Il y a d'autres clauses qu'on met, tu vois, des droits de sortie, des préfères, des trucs comme ça qui nous semblent plus logiques. Parce que là, pour le coup, je trouve que quelqu'un qui a mis de l'argent dans une boîte, c'est logique qu'il le récupère en priorité. Pour autant, on fait vraiment des term sheets qui sont founder friendly. On reste en early stage. On n'a pas envie de faire quelque chose qui fait 200 pages. Moi, avec Pepsi, j'ai un pacte, il fait 200 pages. Le problème, c'est qu'en fait, dès que tu veux faire un truc,
Ça devient
si tu relis
compliqué.
pas, non, mais moi, je suis en breach sur 40 articles. Tu vois, je pense que je suis en bad liver. C'est-à-dire que, en fait, il y a tellement de trucs que, même quand j'achète un truc à 10 000 euros pour la boîte, il aurait fallu que j'envoie un mail avant. Et tu t'en sors plus et tu te crées une situation qui est vraiment délicate. C'est que tu donnes des billes aux uns ou aux autres pour rentrer dans des conflits juridiques terribles. Et je pense que le pacte actionnaire doit simplement servir à encadrer. Et qu'en réalité, nous, sur les 70 boîtes où j'ai investi, il n'y a pas une seule fois où on a voté une décision en board. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu besoin de voter sur quelque chose de très formel en disant nous, on t'interdit de. Je dis souvent que l'entrepreneur doit prendre la décision, mais doit être capable d'écouter et d'accepter le ping-pong, l'échange. Et quand un entrepreneur, ça m'arrive parfois, a une idée que je pense très mauvaise, je lui dis, écoute, je te dis pas que je t'interdis de la faire, même si j'ai le pouvoir de te l'interdire, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai déjà vu ce cas-là dans 20 startups, parce que c'est toujours les mêmes erreurs hein, que tu fais, et pourquoi ça s'est toujours mal fini. Donc à la fin, tu prendras la décision, mais vraiment, je te le déconseille. Et en fait, quand il voit que t'es pas là pour l'interdire, pour lui imposer une décision, mais que tu es là pour essayer d'échanger, la plupart du temps, de lui-même, il se dit, bon, bah attends, c'est rien que je fasse la forte tête, je le mets en relation avec les 20 founders qui ont fait la même connerie, et il en arrive à la même décision. Mais moi aussi, ça peut m'arriver qu'un investisseur veuille tellement m'imposer un truc de force, que je dis, ben, je vais pas bouger. Je vais garder ma position, mais juste pour le faire chier, quoi. Donc, vraiment, je pense que les bons investisseurs savent écouter les besoins des entrepreneurs et adapter les clauses juridiques qui vont bien.
Et justement, tu as parlé un peu des actions de préférence. Toi, tu mets les actions de préférence dans le SPV et en plus dans le pacte d'actionnaires ou pas?
Ouais, on met, alors, dans le SPV, il n'y a pas de pref, c'est-à-dire que si tu veux vendre tes parts, tu peux le faire assez facilement parce que nous, on veut lancer un marché secondaire, justement, où les membres peuvent vendre leurs parts quand ils veulent. Donc, on leur laisse une max liberté, à nos membres. Pour autant, le SPV, a une clause de préférence vis-à-vis de la start-up. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, admettons, on a investi 10 millions d'euros dans une boîte. Bon, disons 1 million sera plus réel, mais plus réaliste. On a investi 1 million d'euros dans une boîte. Malheureusement, c'est un échec et la boîte se revend 500 000 euros 3 ans après. eh ben, c'est les investisseurs qui sont prioritaires pour récupérer cet argent et ça se fait pas au prorata. C'est-à-dire que même si on a 25% de la boîte, on ne prendra pas 25% de 500 000, on prendra 100% de 500 000. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met quand même une petite partie pour le fondateur de manière à ce que ce soit pas punitif et qu'il ait gagné un petit peu d'argent au passage. Mais ça me semble tout à fait logique que un fondateur qui n'a pas été capable de mener sa société jusqu'à une réussite, ben les investisseurs puissent quand même en récupérer une partie, parce que sinon ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, admettons, on a mis 1 million chez quelqu'un, il fait une catastrophe, il revend sa boîte à 500 000 euros, bon ben il va quand même gagner 300 000. Bah, c'est pas logique, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des business angels qui ont parié leur argent. Encore une fois, ça fait quand même toute la différence. Hein. L'argent, on le sait tous, c'est dur à économiser. Quand t'as investi 100 000 balles, moi, c'est les tickets que je mets entre 50 000 et 100 000 depuis 8 ans. Quand tu perds 100 000 balles, et ça m'est arrivé 5-6 fois là, d'affilée, ouais, avec le Covid et ces derniers temps, c'est compliqué. Tu le sens passer quand même, tu vois. Et donc, l'entrepreneur connaît son risque. Et s'il veut pas être assujetti à des clauses juridiques, il faut pas qu'il lève, il faut qu'il bootstrap. Donc en fait, bootstrapper, c'est ce que nous on fait avec Blast, par exemple, parce que je ne veux plus d'investisseurs pour des raisons, ouais, qui me sont très personnelles. J'ai envie d'avoir de la liberté, j'ai un profil qui est compliqué à gérer pour les investisseurs, je le sais, j'ai pas envie qu'ils soient malheureux, tu vois. Donc je leur dis, en fait, ça sert à rien qu'on lève des fonds, on bootstrap, c'est-à-dire qu'on va pas forcément aussi vite que si on avait levé des fonds, mais au moins on est chez nous. Avec mon co-founder, on n'a pas besoin de faire des boards, des trucs. Quand on a besoin de se parler, on s'appelle sur WhatsApp, c'est plié au bout de 2 minutes 30. On n'a pas besoin de faire des votes, des trucs. Donc, il faut savoir où vous mettez les pieds. Il n'y a pas de hasard. Si vous levez des fonds, vous n'êtes plus chez vous. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un dans votre canapé et il est là et il vous regarde. Tranquille, passé. Et puis le matin, tu vois, t'es en caleçon, tu vas prendre ton petit-déj, t'as pas forcément envie qu'on te regarde. Mais c'est la réalité de l'investisseur. Il est là, il peut te regarder quand il veut, il peut te demander des comptes, il peut te demander des informations en plus, il peut t'appeler. Et donc, c'est assez lourd, il faut réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cet écosystème qui est en train de changer, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de revenir sur des fondamentaux beaucoup plus forts, à mon sens, qui sont « je fais du chiffre d'affaires ». Je vends mon produit, j'essaie de gagner de l'argent de manière à grossir step by step, mais sans être dépendant de ces fonds d'investissement qui, évidemment, eux vont chercher de la performance et c'est normal. Et nous, on travaille avec les fonds, attention, parce qu'on a l'impression que je suis anti-fonds. Mais nous, les fonds, ils aiment beaucoup travailler avec nous parce qu'on finance leur early stage et après, comme ça, on va pouvoir leur envoyer des super dossiers qui ont fait des bons chiffres. Donc, chaque maillon de la chaîne est nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un fonds d'investissement, faut pas vous voiler la face. Quand il a mis 10 millions ou 15 millions chez vous, il veut faire x10, x20, x30. Pour que ça puisse être le cas, il va vous pousser à recruter, il va vous pousser à investir plus, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que simplement vous stagniez dans votre chiffre d'affaires, même si vous lui expliquez que vous faites un meilleur EBITDA, lui s'en fout. Ce qu'il veut, c'est du gros chiffre d'affaires, parce que c'est sur le gros chiffre d'affaires que vous pourrez valoriser votre société. Et donc, bon, bah, vous n'avez pas forcément une liberté sur les décisions. Avec une pression continue des fonds, vous avez toujours envie de faire plus. Et parfois, on oublie qu'un entrepreneur doit avant tout penser local, réussir à travailler local et pas tout de suite se projeter, comme on l'entend trop souvent, worldwide, il faut ouvrir 12 pays en même temps, prendre des country launchers, vite aller aux US parce que c'est un gros marché. La réalité, c'est qu'en France, on a déjà beaucoup d'argent à gagner. Il y a 65 millions de consommateurs. Je dis pas que c'est un marché qui n'est pas fini, parce que comme chaque zone, il y a un nombre limité de consommateurs. Pour autant, vous pouvez assez facilement aller faire 20, 30, 40 millions de CA dans votre pays domestique. Et c'est déjà une belle preuve de marché qui nous permettra par la suite de recruter des gens pour aller plus loin.
Sur Blast, t'as levé combien de fois? T'as levé une fois?
Parce Blast, que tu veux... on n'a jamais levé.
Feed, je veux dire.
Feed, on a levé non, plusieurs fois. On a fait 500 000 euros avec des business angels. 3 millions avec Utopia Otium, qui est le fonds de Pierre-Édouard Sterrin, ouais, avec Kima Ventures, de Jean et d'autres BA. Après, on a levé 15 millions avec Alven.
Ouais.
Et on a relevé 15 millions avec Pepsi.
Et pourquoi tu t'as levé avec Blast? Pourquoi t'as levé avec Feed?
Parce que Feed, c'était un business de D2C, donc direct to consumer. Ouais. C'était la grande mode à l'époque. En 2016, il y a eu de belles réussites aux États-Unis qui ont laissé entendre aux fonds d'investissement que c'était quelque chose de très scalable. La réalité, c'est que c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est un produit de supply chain, c'est un produit de centimier. Nous, quand on vend une barre de protéines ou une barre repas, ça coûte 3 euros. Il faut en vendre énormément pour faire de gros chiffres d'affaires. Et surtout, il n'y a pas de récurrence. C'est-à-dire que contrairement à un business de SaaS, donc software as a service, où tu vas vendre en B2B, une fois que tu as cloqué une entreprise, elle va garder ton produit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas besoin de lui reparler. Nous, chaque mois, fallait reconvaincre le consommateur de racheter du feed ou aller chercher de nouveaux clients. Et ça, ça demande beaucoup de marketing. Et à un moment, on dépensait 1 million par mois en marketing, en télé, en Facebook Ads, pour avoir un reach qui soit colossal et grossir extrêmement vite. Ce qu'on a réussi à faire très bien au début, puisque on a fait 2 millions la première année, 7 millions la deuxième, 10 millions la troisième. Sauf qu'en fait, bon, le Covid est arrivé, donc en plus, ça a évidemment changé la donne, mais on a observé que nos cohortes financières n'étaient pas rentables. Les cohortes, c'est typiquement combien ça te coûte pour faire rentrer un client en janvier, et est-ce que en novembre qui suit, il est toujours consommateur? Et la réalité, c'est qu'on achetait en fait des clients avec un coût d'acquisition qui était très élevé et qui n'était pas forcément des early adopters. C'est-à-dire qu'au début, tu te concentres sur tes main customers les plus forts, les plus ambassadeurs. C'est des sportifs, c'est des gens qui comprennent le produit, ils en ont vraiment besoin, donc ils sont contents. Même s'ils aiment pas trop le goût, ils vont retenter avec un autre produit. Vraiment, tu vois, il y a cette envie de participer à une aventure. Sauf que plus tu dépenses, plus Facebook va taper large et plus ton coût d'acquisition va être élevé. Et donc, tu vas aller parler à Madame Michu à Jonzac, qui, elle, c'est la première fois qu'elle mange une barre. Elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Ben, si elle n'aime pas le goût parce qu'elle n'est pas habituée à avoir ce type de consistance, elle répétera jamais et donc elle rachètera pas. Et donc, ton coût d'acquisition étant plus haut que ton premier achat, ou en tout cas ta première vente, tu perds de l'argent sur tes clients. Et donc, on a été obligé de lever pour trouver les bons modèles, pour faire des nouveaux produits. On était 70 dans la team à un moment parce que les fonds nous poussaient à recruter un maximum. C'est sûr que bah, tu dépenses beaucoup d'argent, tu perds beaucoup d'oseille. Et c'est pour ça qu'on était obligé de lever pour financer cette croissance. Et pendant le Covid, j'ai vu les limites de ce modèle. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de lever. J'ai dit, on ne lèvera plus et on va chercher de la rentabilité. Et donc là, on s'est mis en cheval de bataille. Là, c'était vraiment compliqué. On a coupé beaucoup de monde dans la team parce qu'on était beaucoup trop par rapport au volume d'affaires qu'on faisait. Et on a été récupérer notre bon sens paysan du début. Et aujourd'hui, Fidé Rentable gagne de l'argent, ce qui nous était vraiment jamais arrivé, alors qu'on investit beaucoup moins qu'à l'époque. Simplement, on a changé notre façon de penser. On essaie de faire de la notoriété organique, que ce soit par mes réseaux, que ce soit par la communication, par le mail, par l'inbound marketing. Et ça nous permet d'avoir des clients qui sont vraiment fans de la marque et qui vont durer dans le temps et donc nous faire des belles cohortes.
Pour revenir sur le Blast, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne en interne, surtout que t'es confronté à plein de réglementations. Par exemple, t'es limité à une communication externe des deals à 150 personnes, je crois. Après, faut être accrédité. Comment t'es arrivé à jongler sur tout ça? Comment t'as structuré ça? Et aujourd'hui, à quoi ça ressemble de l'intérieur?
Yes. Alors nous, notre agrément PSFP nous permet de parler à plus de 149 personnes sans être considéré comme de l'appel public à l'épargne. Par contre, on ne peut communiquer qu'à nos membres. C'est-à-dire que je ne peux pas faire, moi, sur mes réseaux sociaux, « Venez investir chez nous ». Non. Par contre, Blast peut envoyer à nos 3500 membres en disant « Voilà le nouveau dossier, voilà les informations, faites votre choix ». Donc, on a payé beaucoup de cabinets d'avocats au début parce que c'était une zone un peu grise. Mmh. On était parmi les premiers, on était même les premiers à faire payer l'entrée dans un club. Donc, l'AMF, avec qui on travaille main dans la main, n'avait jamais vu ça. Donc, ils ont dû creuser le business, ils ont dû essayer de comprendre. Nous, on prenait du caride alors que les autres plateformes de crowd equity prenaient que des frais. L'intégralité des plateformes, leur modèle, c'est je te prends 6% quand tu investis, quelle que soit la réussite ou non de la boîte derrière, alors que nous, on s'est dit, on doit s'enrichir si la boîte est un succès. Donc, on va gagner de l'argent et on va gagner très bien notre vie. Si jamais on gagne, une boîte gagne 10 millions, enfin, si Blast gagne 10 millions, ben, nous, on gagnera 2 millions parce qu'on prendra 20% du bénéfice. Et donc, l'AMF a dû vraiment absorber, digérer ces informations. Au final, on peut du coup shooter un mail pour revenir vraiment sur comment ça se passe en interne. On propose un mail par semaine, enfin, un dossier par semaine. Donc, tu vas recevoir le lundi un mail avec un dossier qui est nouveau, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir te positionner, donc le deck, notre analyse, une vidéo où j'explique pourquoi je veux y aller. 2 jours après, tu as un live avec les entrepreneurs et moi-même, donc là c'est un live de 1 heure où les entrepreneurs vont pitcher leur société pendant 10 minutes, un quart d'heure, et on va répondre à toutes les questions des membres sur Livestorm. Donc tu peux, c'est vachement ludique, tu vois, ils peuvent mettre des réactions, ils peuvent poster dans le chat, il y a des questions qui sont votées pour savoir lesquelles on prend en premier, et donc du coup les entrepreneurs vont être challengés pendant une heure avant de rejoindre un Discord. Donc on a un Discord qui est vraiment ultra performant, on a des échanges quotidiennement avec les membres dessus, avec plein de canaux différents. Donc on parle de start-up, mais aussi on va parler d'immobilier, il y a un réseau qui s'est créé entre les membres Blast, et donc ils s'organisent des dîners entre eux dans les différentes villes. Enfin, c'est vraiment génial de voir cette énergie qui émane du club. Et après, du coup, on va créer un canal par start-up, et les fondateurs sont dessus pendant une semaine. Donc pendant une semaine, ils répondent non-stop aux questions des membres qui, encore une fois, vont essayer de comprendre le business, expliquer leurs inquiétudes de manière à pouvoir se positionner ou non. Et pendant cette semaine, il y a ce qu'on appelle une période d'intention. Donc une période d'intention, c'est tu peux aller sur notre site et dire « moi, je veux mettre 20 000 sur ce dossier, moi, je veux mettre 1 000, moi, je veux mettre 3 000 ». Chacun met la somme qui l'intéresse. Et à la fin de cette période d'intention, chacun reçoit un pourcentage de la levée de fonds et la possibilité de mettre X euros. Et là, immédiatement, l'argent est prélevé parce qu'on a créé des portefeuilles, des wallets de chaque personne. L'argent est prélevé dans le portefeuille du Business Angel, est envoyé sur le SPV, donc sur le compte du SPV. Et le SPV rentre dans la startup. En tout et pour tout, ça prend 2 semaines pour le Business Angel. Ensuite, sur son site internet, il a vraiment tous les documents qui sont automatiquement classés. Donc, c'est très simple. Tu veux aller voir tes documents pour feed, par exemple. Tu vas voir le term sheet qui a été signé. Tu vas voir ton bon de souscription. Tu vas voir le CERFA pour tes impôts. Et évidemment, tout est fait en DocuSign automatiquement. T'as rien à faire. On a des avocats en interne qui s'occupent de tout pour ton administratif, ton juridique. Et ça te permet de manière ludique d'investir dans des startups et évidemment d'apprendre au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que tu fais un live d'une heure avec une startup, bah tu entends de nouveaux termes. En plus, on a mis en place quelque chose de super, c'est qu'il y a des key opinion leaders, donc c'est des experts sectoriels qui vont venir présenter les dossiers avec les fondateurs et expliquer pourquoi eux aussi investissent à nos côtés.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.